طيب, comment reconnaître, 8e point, comment reconnaître un sahir, 8e point. 1. Si tu vas chez quelqu'un, il te demande ton nom et le nom de ta mère, sache que c'est un sahir. Le nom de ta mère, non pas du père, il demande le nom de la mère. Ça c'est une chose qui est connue chez les Sahara. Il demande le nom de la mère. Ça c'est un signe. 2. Je vais vite. S'il demande un vêtement de la personne concernée, il apporte-moi un vêtement, un t-shirt, une chemise, un pantalon, etc., etc. Sache que c'est un sahir. 3. Pourquoi? Parce qu'il va les utiliser pour la sorcellerie. Il y a des méthodes qu'ils utilisent pour la sorcellerie. Des paroles et des méthodes avec des nœuds et mesurés, etc., pour faire de la sorcellerie. Je suis pas sorcier. 3. Troisième signe, s'il te demande après la séance, hein, après la séance, bien sûr après qu'il a demandé de l'argent, s'il te demande de sacrifier un animal, et ça c'est une chose qui est connue, il te demande, il te dit, pour, en vérité c'est pour remercier qui? Shaitan, le djinn. Alors qu'est-ce que Shaitan exige du sorcier? Il lui dit, demande à ton client d'aller égorger une bête, un animal, un coq ou un mouton, et en général il demande la couleur noire, et ne dit pas Bismillah, ne prononce pas Bismillah, parce que Shayatin mange la viande où il n'y a pas Bismillah, tu n'as pas prononcé Bismillah. Et deux fois, il te demande même d'aller jeter cet animal dans un endroit bien déterminé, bien déterminé. Des fois la couleur est déterminée, et des fois c'est l'endroit aussi qui est déterminé, et souvent c'est dans des endroits désertiques où il n'y a personne. Pourquoi? Parce que là, il y a ces chayatines qui viennent prendre cette bête pour la manger. Quatrième signe, et des fois ils utilisent le sang de cette bête, le sorcier utilise le sang de cette bête pour engoûter la personne. Quatrièmement, si tu vois la personne en train d'écrire des talismans, des phrases qu'il ne comprend pas, des signes, des tableaux, et malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'apporter des exemples, vous les aurez vus, inchallah, pour une autre fois. Vous allez voir des tableaux, des signes, qu'est-ce qu'ils mettent et comment. C'est la méthode utilisée aussi, c'est un signe, comme quoi c'est un sorcier. Cinquièmement, s'il te demande de rester isolé à l'écart des gens pendant une certaine période. C'est la période, comme le médecin te dit, tu prends ce médicament pendant 15 jours, mais de préférence tu restes dans ton lit, loin des gens, etc., parce que tu as besoin du repos. Alors le sorcier te demande d'être à l'écart des gens, rester seul avec Shayatin, wa'iyadu billah. Et même, ils disent des fois, dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Sixièmement, il peut te demander aussi de ne pas toucher l'eau, de ne pas se laver, rester avec l'impureté pendant un certain nombre de jours. Shayatin aime l'impureté. Septièmement, il te demande de ne pas dire Bismillah. Ne pas dire Bismillah. Et tu le vois des fois lui aussi, quand il commence le traitement, le sorcier, il ne fait pas, il ne prononce pas Bismillah. Ou bien il te dit, toi ne dis pas Bismillah. Quand je vais commencer à prononcer les talismans, les paroles de kufr, tu dis ne dis pas Bismillah. Pourquoi? Parce que le shaitan, c'est le shaitan qui vient à travailler. Ne dis pas Bismillah. Parce que si tu invoques la azza wa jalla, le shaitan y part. Huitièmement, si tu vois que la personne te parle des choses invisibles, des choses que ce méconnaissable, seul Allah connaît, parle du futur, l'avenir, etc., sache que c'est un sahir. Ou bien s'il te donne des feuilles sur lesquelles il y a certains versets avec des noms d'Allah Azza wa Jal, des attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et aussi il y a sur la feuille des cadres, des carrés, des rectangles, des triangles, etc., et des mots coupés en lettres, sache que c'est un sahir. S'il te donne aussi des feuilles pour brûler et aspirer la fumée de ces feuilles, sache que, respirer, sache qu'il s'agit là d'un sahir. Ou bien s'il te donne des choses qui te dit tu dois les mettre, les enterrer quelque part, les mettre dans la terre quelque part, sache que c'est un sahir. J'inchallah vite. Le neuvième, comment sahir fait appel au shayatin? Comment il travaille sahir? Comment il arrive à prendre contact avec les djinns? comme il arrive à travailler avec Shayatin et à faire appel aux Shayatin. De un, il doit commettre, dans certains cas, doit commettre des actes de shirk et de kufr billah subhanahu wa ta'ala, pour que Shayatin puisse travailler pour lui. Travaille pas gratuitement, fils de billah. Shayatin, il te dit, écoute, tu veux devenir un sorcier, pas de problème. Tu ne dois pas attendre deux mois ou bien passer à la commune, légaliser les papiers. Non, 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 non. Directement, tu veux, pas de problème. Tu sais ce que tu as à faire. Maintenant, tu dois faire un acte de mécréance, maintenant. Comme quoi, par exemple, insulter Allah. Par exemple, insulter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, te prosterner devant moi. Shaitan, c'est lui qui lui parle. Parce qu'il vient, soit sous forme d'un chien noir, d'un animal, il vient dans la chambre où il y a le sorcier, celui qui veut devenir sorcier. Il vient sous forme d'un animal, couleur noire en général, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel vous l'assoit du shaitan, le chien noir est un shaitan, parce que souvent, il se transforme. Shaitan prend cette couleur, eh bien, alors, il te demande de te prosterner devant lui, ou bien il te demande carrément de mettre le Coran, dans ses chaussures, marcher dessus, et rentrer avec dans les toilettes. Ça c'est les degrés les plus élevés chez le sorcier. Donc les généraux, le Sahara, c'est ceux qui commettent cette grande mécréance, wal'iyadu billah. Alors quand le sorcier aura fait cela, eh bien Shaitan lui donne quelqu'un qui travaille pour lui, ou bien Shaitan lui-même travaille pour lui, wal'iyadu billah. Et il peut aussi travailler pour lui quand le sorcier aura commis un acte de mécréance en jurant par Shaitan. Au lieu de jurer par Allah, il jure par Shaitan. Ou bien par le chef de la bande de Shayatin dans le coin, dans le village, ou dans la ville, etc. Deux, de faire des sacrifices pour le djinn. Le sorcier, des fois, fait des sacrifices, comme ceux que je viens de citer là tantôt, eh bien il fait des sacrifices pour devenir, pour que Shaitan puisse travailler pour lui. Donc quand il fait des sacrifices pour Shaitan, il aura commis un acte de shirk. Alors là, Shaitan, il est content de lui, il travaille pour lui. Et le prophète me dit, la'an Allah dans Sahih Muslim, la'an Allah man zabaha li ghayri Allah. Celui qui fait une immolation pour quelqu'un autre qu'Allah Azza wa Jal, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, faire un acte d'humiliation à l'égard du Coran al-Karim. Prendre de l'impureté, une najasa, des toilettes et écrire le Coran. C'est comme ça que font certains sahara, wal'iyadu billah. Comme eux, ils l'ont avoué, avec de l'impureté. Ou bien prendre le sang des règles et écrire le Coran al-Karim, des versets du Coran al-Karim. Et même uriner sur le Coran al-Karim. Aba Allah. Quatrièmement, commettre l'inceste ou bien la sodomie. Certains sorciers qui ont avoué commettre l'inceste avec leurs proches, avec leurs filles, leurs sœurs, etc. Wal'iyadu billah. Pour que Shaitan, il travaille avec lui, il travaille pour lui, pour son compte. Il doit commettre les pires des péchés et des actes de mécréance. Pour ne pas prendre les choses à la légère comme le font les musulmans aujourd'hui, tu trouves une sœur avec le hijab et malheureusement, je le dis bien, la plupart des gens qui vont chez les sorciers, ce sont les femmes. Avec des statistiques, ce sont les femmes. Septièmement, écrire le Coran à l'envers. Ils prennent une sourate, comme le Fatiha par exemple, Alhamdu. Ils écrivent Alhamdu à l'envers. Au lieu Alhamdu, ça se termine avec un dal. Alors lui, il écrit dal en premier, ensuite le mim, ensuite le ha, ensuite l'am, alif, etc. C'est comme ça, à l'envers. Pour plaire à Shaitan, l'ayadu billah. Et aussi, ils utilisent des méthodes astrologiques, non pas astronomiques, astrologiques. Et ils te font croire qu'il le sait ou il ne le sait pas, le sorcier, quand tu vas chez lui et tu dis, écoute, moi, je m'adresse aux étoiles, je travaille avec les étoiles qui ont un effet pour lui, il dit ça, elles ont un effet sur l'humanité, sur le monde, sur les gens. Alors il faut attendre, et c'est pour ça que dans le livre de Sihr, ils ont des calendriers pour ces étoiles, et tu dis que cette étoile apparaît telle date. Alors le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la date déterminée pour parler avec les étoiles, s'adresser aux étoiles, et à ce moment-là, il te fait un sihr que tu désires pour un tel, pour quelqu'un, contre quelqu'un. Alors il te le donne. Tu vas le faire, le transmettre pour envoûter quelqu'un, et même par après, si tu veux venir pour annuler un sihr qu'il t'a fait, et tu dis tu ne veux pas, tu dois attendre jusqu'à la prochaine date, la prochaine apparition de la même étoile. Alors qu'en vérité, tout ça c'est des mensonges. Tu n'as rien à attendre, tu appelles un frère qui fait ruqya bi idnillah azza wa jal, ça part. Mais cette méthode, il l'utilise. Et ça, c'est un acte de shirk. Quelqu'un qui croit que les étoiles, ce sont comme les pierres, comme les murs, comme le bois, c'est des créatures inertes, qu'est-ce qu'elles ont? Et il n'y a pas d'âme dans les étoiles. C'est Shaitan qui est en train de se moquer du sorcier. Neuvièmement, ils utilisent aussi la méthode qui est connue, comme a cité le frère, le Sheikh Wahid Abdussalam Bali, dans son livre As-Sarim al-Battar, qui est traduit en français, l'épée tranchante, dans laquelle il y a des choses qui sont très importantes, mais il y a beaucoup de choses qui s'agit juste de l'expérience, de son expérience à lui. On ne veut pas dire que ça c'est du Qur'an ou Sunna, c'est son expérience. Ce qu'on appelle Tariqat al-Kaf, le sorcier appelle un enfant, fait appel à un enfant, et lui dessine sur sa paume, la paume de la main, un triangle, un rectangle ou un carré, sur lequel, au-dessus, à droite et à gauche, et au-dessus et en dessous, il écrit des paroles de kufr pour faire appel au shayatin. Et il prend un bout de papier sur lequel il écrit des talismans, c'est des talismans, des paroles pour faire appel au shayatin. Il la met sur le front de l'enfant. Mais puisqu'elle va tomber, cette feuille, elle va tomber, il lui met un chapeau dessus. Comme ça, le papier reste comme une casquette. Comme ça. Et l'enfant a l'autre dessin sur sa main. Et ensuite, il couvre tout le visage de l'enfant, donc ce qui fait que l'enfant ne voit rien, tout est noir. Alors, le sorcier commence à prononcer des paroles de shayatin. Il appelle shayatin, al-kufr al-shirk. Et tout d'un coup, l'enfant commence à voir clair à l'intérieur. Elle voit comme une TV, comme un écran. Il voit des personnes, il voit des images, il voit des scènes. Et on utilise ça souvent pour chercher quelque chose. Quand quelqu'un va chez le sorcier, il dit, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu un enfant, etc. Alors il lui dit, il le voit, il dit, il est à tel endroit, ou bien tu le trouveras, etc. Donc ça c'est une méthode qu'ils utilisent aussi, c'est As-Sahara, alayhim la'ainullah. Le dixième et l'avant-dernier point, des exemples de formes de sihr. Pourquoi, dans quelle forme, ou bien sous quelle forme utilisent-ils le sihr? Ils utilisent le sihr pour la chose la plus courante, comme a dit le Coran Karim, c'est pour séparer le couple. Pour séparer le couple. Et ils utilisent plusieurs manières, soit en te demandant des vêtements du mari pour lui faire sihr, ou bien on te met sihr sous forme de poudre devant la porte, ou bien dans la nourriture, ou bien dans l'oreiller, et des fois c'est même Shaitan lui-même, djinn dans certains cas, c'est lui qui le met dans l'oreiller. Il le met, lui-même il le met. Et des fois on te met une sorte de sihr dans de l'eau, et on vient déverser l'eau devant ta porte ou bien sur ta voiture. Comme ça, dès que tu traverses l'endroit, le shaitan directement te possède. Tu seras envoûté. Et comment reconnaître ce genre de sihr? Eh bien, c'est connu. C'est connu. Le signe, je cite. En bref, le symptôme qui est le plus connu, c'est quand tu vois un changement brusque chez l'homme ou bien chez la femme. Subhanallah, le couple, on s'entendait bien, mashallah. Du jour au lendemain, tu vois un changement, comme on dit, 360, 180, tout à fait de l'autre côté. Le mari qui ne veut plus voir son épouse, il ne veut plus la fréquenter, il ne veut plus lui parler. Chaque fois qu'il est en dehors de la maison, mashallah, il est content, il veut voir son épouse, il veut rentrer chez lui. Mais dès qu'il arrive à la porte, devant la porte, subhanallah, il change, il devient nerveux, en colère, il veut sortir. Ou bien, le même symptôme chez la femme. ça c'est un signe clair qu'il y a quelque chose entre les deux. Bien sûr, je parle en général. C'est possible qu'il y a quelque chose d'autre, mais ça c'est rare. Deuxième forme de sihr, c'est le contraire. Le cas contraire, c'est de faire aimer deux personnes l'une pour l'autre. Parce que des fois, dans certaines familles, on dit que pour que la femme ne quitte pas son mari ou bien le mari ne quitte pas sa femme, eh bien on va leur faire un sihr. Ce qu'on appelle ce que le prophète m'a cité dans le hadith, At-tiwala inna ruqa wa at-tiwalata inna tama'ima wa at-tiwala inna ruqa wa tama'ima wa at-tiwalata shirk. At-tiwala, c'est le sihr qu'on fait pour faire aimer deux personnes l'une pour l'autre. C'est un sihr, que ce soit sous forme de poudre ou bien on la met dans l'oreiller ou bien dans du parfum, le parfum du mari ou bien devant la porte, etc. ou bien dans les vêtements. Eh bien, c'est un sihr qu'ils mettent pour faire aimer l'homme pour sa femme et vice versa. Mais subhanallah, al-jaza'u min jinsi al-amal. Dans certains cas, subhanallah, une femme qui a été faire de sihr pour se faire aimer par son mari, Allah Azza wa Jalla l'a puni, c'est que le sihr a fait sa fonction à l'envers. Ah, il a marché à l'envers. Son mari l'a détesté encore plus. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Comment reconnaître ce genre de sihr, de tiwala? Eh bien, quand vous voyez que l'homme obéit à sa femme aveuglément, elle lui dit casse ce mur, il le casse. Il dit assis-toi, respire pas. Si demain tu dois pas aller chez tes parents, il n'y a rien à dire. Parle pas. Il y a des cas, moi je connais des cas comme ça, subhanallah. Elle lui dit tu restes, il reste. Tu bouges pas, il bouge pas. Quand il est à la mosquée ou bien il est dehors, on dirait un lion, comme on dit en arabe. Masha'Allah, un courageux, un héros. Il rentre à la maison, subhanallah. Ah, il s'éteint. Ça c'est un signe qu'au cas, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a quelque chose. Surtout, obéir aveuglement, même dans le péché, certainement il y a quelque chose, subhanallah. Troisième forme, c'est la forme que j'ai citée avec Moussa et avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par tahil, c'est par des apparitions. Faire croire qu'il y a... Que par exemple, faire croire à la personne qui regarde, il regarde une petite bouteille, il la voit grande. Il regarde un homme, il le voit petit. Il regarde un objet... Même si cet objet est implanté dans la terre, est planté dans la terre, il le voit en train de bouger. Il voit cette bouteille que vous voyez dans mes mains, vous la verrez en train de tourner, toute seule, suspendue, comme ça, en l'air. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de vrai dans tout cela. Si tu fais l'adhan, mais tu lis le Coran al-Karim, tu lis l'ayat al-Kursi, tu vas voir, tous les autres ils vont voir la bouteille en train de tourner, toi tu vas la voir, masha'Allah, comme elle était, comme elle l'est maintenant. Tu vas voir, et essayez de le faire si vous allez jamais à l'Ifna à Marrakech. Ah. Et vous allez voir que si vous récitez des versets du Coran, ayat al-Kursi, etc., directement le sorcier, le charlatan là, il va vous dire s'il y a quelqu'un qui est en train de lire le Coran, dites-lui de partir. Khallina naklu al-khubz dialna. Comme ça, il va te dire laisse-moi gagner mon pain. Il te le dira parce que sa machine ne fonctionne plus. Tu lis le Coran. Sa vie. Toi, tu vois tout clair. Les autres, je passe certains exemples. Mais une autre forme de sihr, c'est un sihr qui met la personne dans la fatigue, une fatigue générale. Tu ressens une fatigue générale tout le temps. Tu veux être tout seul. Tu ne veux pas rencontrer les gens, tu ne veux pas fréquenter les gens, tu ne veux pas rester avec les gens, tu veux rester tout seul, tu as des maux de tête, des maux des fois de ventre. Ça c'est aussi une sorte de sihr, avec ces symptômes que je viens de citer. Des fois, une autre forme, on entend des voix. On entend des voix. À la maison, tu entends quelqu'un qui t'appelle. Des voix à chaque fois. Tu entends, ça peut arriver, quelqu'un t'appelle, un jinni. Alors que toi tu es masha'Allah mu'min et tu n'as rien, ça peut arriver, c'est tout à fait une chose qui est connue, qui arrive des fois. Tu rentres à la maison, il y a quelqu'un qui t'appelle. C'est possible que ça arrive. Et que ça peut même qu'il te réveille pour le Fajr. Il vient, le Fajr, il te réveille. Pour ne pas rater le Fajr. Si c'est un djinn mu'min, bien sûr. Bien sûr, c'est pas toi qui l'as cherché. C'est pas toi qui l'as appelé. Il vient te réveiller. Bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Mais je parle là des cas de sihr qui rentre. Le type, il est malade, fatigué, il a des douleurs. Il rentre à la maison, il entend chaque fois dans son oreille comme un sifflement, ou bien comme chaque fois il entend des voix dans son oreille. Ça, c'est aussi un cas de sihr. Et alors, une autre forme, subhanallah, c'est une forme d'hémorragie chez les femmes. C'est un sihr qui essaye de faire détester la femme devant son mari, ou bien le contraire, il essaye de les séparer. Et c'est dans les cas où Shaitan veut prendre cette femme. Qu'est-ce qu'il fait, Al-Sahir? Ce sihr fait de telle sorte, agit de telle sorte que quand le mari rentre à la maison, directement, automatiquement, la femme a du sang qui ressemble au sang de la métrorragie. Directement. Elle a des pertes du sang. Comme ça, le mari ne sait pas avoir des rapports avec son épouse. Et quand il part directement, le sang cesse. Directement. S'il revient après une heure, de nouveau la même opération. Ça, c'est une sorte de sihr. Et le dernier, ou la dernière forme, c'est la forme de ce qu'on appelle traf. Vous connaissez c'est quoi traf? C'est empêcher l'homme ou la femme, l'un ou l'autre, d'avoir des rapports avec son conjoint, avec son époux. Ça, c'est connu, c'est la chose la plus courante chez les musulmans. À tel point que c'est devenu, yani, le jour du mariage, tu dois être en état d'alerte total, général. En état d'alerte. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a des visiteurs de la nuit qui t'attendent. Avec des ciseaux, derrière toi. Ils t'attendent. Tu passes, ils coupent un petit bout de tes vêtements, de ta djellaba. C'est pour ça qu'ils te conseillent de porter une cape, un silham, toi-il. Comme ça, c'est plus facile. Et il le prend chez le sorcier. Le sorcier fait certains nœuds avec certaines paroles. Et l'affaire est faite. Ça, c'est le sihr qui est le plus courant. Lors du mariage. Pendant le mariage, subhanallah, un jour, je me rappelle une jeune fille qui venait de se marier. Ici, elle venait de se marier. Elle est tombée dans l'évanouissement. Et il y a un de sa famille qui a appelé, il a dit qu'il y a une fille qui est malade, subhanallah. Et quand Shaitan a parlé, il a dit qui a fait sihr, etc. Et pourquoi? Et comment, subhanallah? Et c'est une chose qui est courante. C'est pour cela que Rasulullah il dit, la tu sahib illa mu'mina. Ne fréquente que le mu'minin. Tu invites chez toi des gens qui boivent, des gens qui font le haram, des gens qui ne prient pas. Mais c'est normal qu'ils vont te faire ce genre de choses. Wallah, alhamdoulilah. Moi, je le dis chaque fois. Que les frères, les jeunes qui vivent ici, d'un côté, vous avez une grande chance de ne pas avoir connu les traditions du bled. Il y a des traditions incroyables. La nuit des noces, il y a 7, 8, 10, 15 femmes qui attendent juste à côté de la porte. Ça finit. Moussaïb. Moi, pour ceux qui n'ont pas compris, je crois que c'est mieux. Mais là, il faut faire attention. Pour ce genre de cas, il faut faire attention que ne pas confondre sihr avec l'impuissance. Pas confondre les deux. Des fois, le type, une fois qu'il a la première nuit, il a des problèmes, de l'impuissance, ça peut arriver, subhanallah. Qu'est-ce qu'il fait directement? On m'a fait quelque chose, sihr. Tu le vois, ce qu'il est angoissé. Sihr. Tu essaies de le mettre à l'aise, de lui parler, de lui parler de Coran Karim, d'Allah Azza wa Jal, que normalement, toi tu n'as rien, tu es art, tu pries, tu es une femme qui prie, alhamdulillah, il ne faut pas penser à ça, etc. Essaie de lui donner confiance en lui-même d'abord. Et essaie de voir les symptômes, est-ce qu'il s'agit vraiment de sihr ou pas. Ensuite, tu peux lui lire un peu de Coran pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais sinon, tu lui dis, va voir le médecin. Va voir le médecin. C'est une maladie organique ou bien va voir le médecin, te donne des conseils, etc. Donc il ne faut pas confondre l'impuissance et l'incapacité et le sihr. Il ne faut pas les confondre. Il faut demander toujours des conseils. Le dernier point, comment se soigner de sihr? Comment se soigner de sihr? Le premier principe, la première règle, c'est d'avoir, pour se soigner de sihr, il faut d'abord avoir une croyance qui est solide, qui est correcte, Allah Azza wa Jal. Que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Qu'Allah ta'ala, si il t'a donné un mal ou une maladie, c'est une épreuve par Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vers lui que tu dois aller. Et c'est auprès de lui que tu dois chercher refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avoir une croyance qui est ferme, qui est correcte et qui est claire, où il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de mystère, on n'a pas de mystère dans notre aqidah, alhamdulillah. Elle est claire. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Deux, al-sabr. Montre al-sabr. Montrer al-sabr et l'endurance. Fais preuve de sabr et d'endurance. Ce n'est pas parce que tu as été envoûté ou l'ayyadu billah, la qaddar Allah. Ce n'est pas pour autant que tu vas aller directement être angoissé et aller chercher des solutions dans le haram. Non, ça, même si ça prend un peu du temps, ça peut prendre du temps des fois. Des fois, ça peut prendre des mois et des années, dans certains cas. Sabr, alayka bis-sabr. Parce que si tu montres sabr, tu fais preuve d'endurance, Allah Azza wa Jal te donnera, te récompensera, ici-bas et dans le delà. Fais montrer et fais preuve d'endurance et de patience. Troisièmement, c'est de faire tawbah. Faire tawbah. Si tu as quelqu'un dans la famille ou un proche ou un ami qui est envoûté, dis-lui de faire tawbah. Après ce que je viens de dire, il doit faire tawbah. Car Shaitan, il t'attaque à cause des péchés. À cause des péchés que tu fais. C'est à cause de nos péchés que Shaitan, que nous devenons faibles et Shaitan devient fort. Et que le sorcier devient fort. Pourquoi Sahara, les sorciers? Pourquoi ils n'ont pas, ils n'ont rien su faire contre les milliers de Sahaba? Comme j'ai dit, à part des exemples, des preuves. Pourquoi? Parce que ces gens-là faisaient tawba si jamais ils tombent dans Al-Khata ou bien dans Al-Marsiya. Quatrièmement, faire beaucoup d'invocations. On prie Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est envoûté, elle doit faire dua tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jour et nuit, dans les prières, en dehors des prières. Qiyam layl, doit faire dua, 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 dua. Et qu'il soit certain qu'Allah ta'ala exaucera ses voeux. Et non pas quand on voit une étoile filante, fais ton vœu. Non, c'est qiyam layl, as-salah. Ça fait partie du shirk. As-salah, du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahih Bukhari. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a été envoûté, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Aïcha? Comme on décrit la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alaha ala Allahi bid du'a. Il a insisté dans le du'a. Il faisait du'a tout le temps, 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 pendant toutes ces semaines. Jusqu'à ce que, à la fin, Allah ta'ala lui a envoyé les deux anges, sous forme humaine, qui sont venus, l'un près de la tête du prophète, l'autre près des pieds. Ils ont dit, c'est lui qui a été envoûté. Alors ils ont commencé à réciter les deux sourates, qu'ul a'oudhu bil falaq, qu'ul a'oudhu bin nas, et après le prophète a été guéri, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire beaucoup de dua. Rasulullah a dit à Aïcha, tu as vu, Allah ta'ala a exaucé mes dua, mes invocations. Tellement il a insisté. Alors insiste, il ne faut pas désespérer. Une fois que tu as désespéré, Shaitan aura gagné. Cinquièmement, c'est de faire ruqya shar'iyya. Ruqya shar'iyya, c'est-à-dire la méthode légale en islam pour se soigner avec le Coran, mettre la main sur le patient, et lire le Coran al-Karim, lire des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si tu ne connais pas de dua, tu dis les dua en arabe, tu connais même le fait de dire Ya Rabbi Shfi pour quelqu'un qui ne sait rien. Et tu récites le Coran, tu peux faire même l'adhan, l'appel à la prière, car ça chasse le shaitan, comme a dit le prophète sallam. Ça c'est ruqya shar'iyya. Bien sûr, si quelqu'un le fait pour une femme, il doit y avoir un mahram de cette femme, et la femme doit être muhtajiba, avec son hijab, avec la présence d'un mahram, et de lire le Coran, et tout le Coran, donne la guérison, al-shifa, bi'inillah subhanahu. Tout le Coran. Il n'y a pas que quelques versets ou bien quelques sourates. Tout le Coran, وننزل من القرآن من أي شيء ليست لي التبعيد وإنما هي للجنس أي من جنس القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن est une miséricorde et une guérison pour les croyants comme dit le Coran le Karim mais pour certains sourates ils ont une particularité comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم comme pour sourate al-Fatiha قصة l'histoire de Abu Sa'id al-Khudri quand il a eu réciter al-Fatiha sur quelqu'un qui a été mordu par une bête par un scorpion Eh bien, Abu Sa'id a récité le Fatiha, il a été empoisonné, il avait du poison. Il a récité le Fatiha en soufflant sur la blessure, et directement il a été guéri, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Donc le Fatiha, ayat al-Kursi, hadith de Abu Huraira, quand le shaitan venait lui voler du zakat, et alors le shaitan a enseigné à Abu Huraira, ayat al-Kursi, qui chasse les shayatrin, al-Mu'awidatayn, les deux Mu'awidat, qu'il a a'udhu bi Rabbi al-Falaq, qu'il a'udhu bi Rabbi al-Nas, et on a vu le cas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grâce à ça qu'il a été guéri alayhi salatu wassalam aussi al-mu'awidat au pluriel qul huwallahu ahad qul a'oudhu bi rabbil falaq qul a'oudhu bi rabbin nas comme nous a conseillé le prophète sallam de souffler sur ses deux mains avant de dormir et de réciter les trois sourates et de passer les mains sur tout le corps et de faire la même opération trois fois et le prophète sallam quand il tombait malade des fois il faisait la même opération Quand il tombait malade, il prenait les deux mains, les deux poignets, soufflait dessus, récitait les trois sourates et passait sur son corps. Et au moment de sa mort, alayhi salatu wassalam, juste avant sa mort, il était tellement malade, alayhi salatu wassalam, il ne savait pas faire lui-même cette opération. Si Aïcha radiallahu anha, qui prenait les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitait les trois sourates et passait les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une chose qui est très importante. Et on a des versets que je citerai, comme ça vous les trouverez sur la cassette, de Ayat al-Baqara, le début. Ça c'est des versets que conseillent certains ulama, sinon on n'a pas des textes du professeur Salim, à part ce que je viens de dire. Donc les cinq premiers versets de Surat al-Baqara, le verset 163, 164, 255, c'est Ayat al-Kursi, la fin, les deux derniers versets de Surat al-Baqara, 18, 19, Surat al-Imran, 54 à 56, الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش etc. 117, 122 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك etc. يونس 81, 82 طه 69 المؤمنون 115, 118 الصافات le début de الصافات 10 premier verset الأحقاف donc ces versets ces sourates ont été essayés par beaucoup de l'ulama et elles ont un grand effet mais sinon le Coran tout entier est un Shifa est une guérison. Al-Ahqaf 29, 32. Al-Rahman 33, 36. Al-Hashr 21, 24. Al-Jinn, les 9 premiers versets. Al-Mu'awidat que je viens de citer. Et aussi les invocations ad'iyah du Prophète. Bismillah, alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fil sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Trois fois. A'oudhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. Trois fois. A'oudhu bi kalimati Allahi tammah min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli 'aynin lammah. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما trois fois بسم الله بسم الله بسم الله trois fois et tu mets la main sur l'endroit qui te fait mal et tu dis sept fois أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر Tout cela, ce sont des invocations parmi d'autres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième moyen de se soigner de sihr, c'est le fait de dire tout le temps les invocations le matin, le soir, avant de sortir, avant de dormir, avant de se réveiller, quand on se réveille, etc. Aussi faire beaucoup de pratiques et de bonnes actions. Neuvièmement, on peut utiliser al-habbatu sauda. Le cumin, la graine du cumin noir, l'habba sauda, on peut l'utiliser, comme a dit le prophète, l'habba sauda, shifa'un min kulli da, dans une autre version, fiha shifa'un min kulli da, illa san. Il y a dans cette graine du cumin noir, une guérison pour toutes les maladies, excepté la mort. As-san, c'est la mort. elle n'a pas de remède. Alors on peut utiliser le habba sauda, c'est une graine qui est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, mais attention, il faut l'utiliser avec des doses déterminées, boire 2-3 fois par jour les cuillères à café. On peut lire dessus le Fatiha ou bien le Coran al-Karim, le Mu'awidat, comme il est rapporté dans un hadith dans Sunan Abi Daoud, qu'a cité Cheikh Ibn Baz rahimahullah, que le prophète récitait le Coran des fois sur de l'eau, mais sinon c'est la pratique de beaucoup de ulama al-salaf de lire sur de l'eau le Coran al-Karim et boire cette eau, boire de l'huile, lire sur de l'huile. On peut utiliser même l'huile d'olive, comme a dit le prophète, Kulu zayt al-zaytoun wa dahinu bih, parce que c'est une, c'est un arbre qui est béni, comme il cite dans le Coran al-Karim, l'huile d'olive, l'huile pure, que les jeunes n'aiment pas malheureusement. Oh, c'est dur, ah, ça c'est dur. Mais attention les doses de l'habba sauda, attention les doses. Ne fais pas comme le frère, quand on lui a cité ce hadith, il a été ici, dans une librairie, il a acheté toute une bouteille, et directement il a bu toute la bouteille. 10 minutes après, César de Pape. Pour nettoyer l'estomac. Il faut faire attention. Les doses, faire attention aussi la date. La date, très attention. La date, le produit ne doit pas être périmé. Sinon, ça devient une matière toxique. Faites attention. Parce qu'il y a des spécialistes dans la falsification des dates. Des spécialistes. Ils achètent les bouteilles de l'Habba Sauda et quand il y a encore dans le stock des bouteilles et la date est périmée, ils mettent une étiquette dessus. Faites attention. Ou bien, ils barrent avec un marqueur. Faites attention. Ils doivent taqillah azza wa jalla. On peut utiliser aussi, comme il est rapporté de certains savants de Salaf, al-sidr, waraq al-sidr al-akhdar. C'est des petites feuilles de à peu près 1 cm et même des fois moins, des petites feuilles de sidr. C'est une plante épineuse qui a des épines. Elle a des petites feuilles, cidre. Certains salafs l'ont pratiqué, ils prenaient 7 feuilles vertes, non pas sèches, vertes, ils les broyaient entre deux pierres, les broyaient, et versaient de l'eau sur ces feuilles, ensuite récitaient sur tout ce produit du Coran, des versets de Coran avec des invocations, et utilisaient cette eau pour boire et pour se laver avec pendant quelques jours. Et ça a marché dans beaucoup de cas, bi'ilnillah subhanahu wa ta'ala. On peut utiliser aussi le hijama, la saignée, même pour sihr, la saignée. On met des petits verres ici sur la nuque ou bien sur le dos, sur le pied, ça dépend des endroits, pour faire sortir les matières toxiques dans le sang. Ça peut servir même contre sihr, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad, et en citant le hadith du prophète dans Sahih Muslim, خَيْرُ مَا تَدَوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةِ. La meilleure méthode que vous avez utilisée, que vous aurez utilisée pour se soigner, c'est la saignée, comme dit le prophète Al-Hijama. On peut utiliser aussi pour se soigner de sihr, c'est le fait de chercher l'endroit où un sihr est caché. Si on vous a mis un talisman dans l'oreiller, on essaie de chercher dans les oreillers, dans la cave, derrière les portes, etc. Si on arrive à le trouver. C'est pour ça que des fois, quand on fait ruqya à quelqu'un qui est envoûté, et quand le djinn parle, la personne elle est entièrement dans l'inconscience, c'est le shaitan qui parle à sa place, même si vous frappez la personne, elle ne ressent rien du tout, elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle, à la fin quand elle se réveille, elle ne sait rien de ce qui se passait. Alors quand vous demandez à le djinn, il vous dit, quand bien sûr, vous lui faites du mal, il dit que le sihr se trouve à tel endroit par exemple, dans la cave ou sur le toit ou dans tel endroit, et vous envoyez quelqu'un, il le trouve là-bas. Donc, dans certains cas, si on arrive à trouver l'endroit de sihr, on prend le sihr et on le brûle, ou bien on le met dans un trou par terre, dans la terre, on l'enterre dans la terre. Comme il est rapporté du prophète sallam, quand les deux anges ont récité sur lui les deux sourates, il a demandé, ils lui ont montré où ça se trouvait le sihr qu'a fait ce juif. Il a envoyé le sahaba, ils ont découvert que sihr a été mis dans un puits près de certains palmiers. Et quand les sahaba sont arrivés là, ils ont trouvé le puits, l'eau de ce puits ressemblait à du henné, al-henna, subhanallah. et que les palmiers qui se trouvaient au bord de ce puits ressemblaient aux têtes de shayatin, comme a dit le prophète. Alors, dans une version, que le sihr a été brûlé, riwaya, brûlé, l'autre a été enterré dans la terre. Donc, on peut utiliser l'une des deux manières pour annuler un sihr. Si on arrive à trouver un sihr, soit on le brûle, ou bien on le met dans la terre. Et un dernier moyen qui peut servir est pour la protection contre sihr avant d'être envoûté, et pour se soigner de sihr. Quelqu'un qui est malade, qui est envoûté, c'est les dattes de médine qu'on appelle al-ajwa. Al-ajwa, c'est une sorte de datte qui est petite de cette taille, à peu près d'un centimètre, et qu'on appelle al-ajwa. Allah Ta'ala lui a donné cette qualité, subhanallah, de guérir et de se protéger contre sihr. Al-hadith al-muttafaq alayhi, rapporté par al-Bukhari et Muslim, qala sallallahu alayhi wa sallam, man tasabbaha bi sab'i tamratin ajwa lam yadurruhu dhalika al-yawm summun wala sihr. Celui qui mange le matin cette date de l'ajwa toute la journée, il n'a rien à craindre, ni sihr ni le poison. Même s'il mange du sihr et du poison, ça ne lui fera rien du tout. Mu'jizat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le chiffre 7 fois 7 cieux, 7 terres, c'est Allah qui a décidé les 7 dans ce hadith. 7 jours de la semaine, 7 tours de tawaf, 7 fois trajet aller-retour entre Safa et Marwa, Ar-Rajm dans le Hajj, 7 fois, 7, dans la première raka'a de l'Eid, de Takbir, 7 fois. Alors, le prophète nous dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à partir de l'âge de 7 ans. L'Aqiqa, le 7e jour après la naissance. Dans le Coran Karim, ceux qui font sadaqa, leurs actions sont multipliées par 7. مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. Ils ressemblent dans leurs actions à un grain de blé qui fait pousser 7 épis. سبع سنابل, etc. Il y a des exemples pour ce chiffre. Comme ça, pourquoi Allah Azza wa Jalla, le médecin, quand vous allez chez le médecin, il vous fait la prescription, il te dit, ce médicament, tu le prends combien de fois? 3 fois par jour. Ce médicament, 2 fois par jour. Pourquoi 2 fois, 3 fois? C'est un médecin, il sait ce qu'il fait. Il sait que la dose qu'il vous a donnée, 3 fois par jour, après un certain nombre de jours, elle va faire son effet. Il faut une certaine dose. Mais tu ne veux pas la prendre une seule fois, elle va te faire du tort. Mais il faut l'étaler sur un certain nombre de jours. Allah Azza wa Jalla, c'est le vrai médecin, at-tabib, comme a dit le Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih. Allah est at-tabib. Allah, c'est le vrai médecin. Il te dit 7 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend 7 fois. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa intaba'u da. Walhamdulillahi rabbil alamin.